France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur France Info, à la radio et à la télé, canal 16 de la TNT. À la une ce soir, l'appel à la fermeté de Bruno Retailleau avant le 10 septembre. Le ministre de l'Intérieur ordonne aux préfets de protéger les sites sensibles. Comment s'organisent ces actions de blocage mercredi prochain? Vers qui se dirige la colère des participants? Il n'y aura sans doute plus de gouvernement ce jour-là, puisque sauf énorme surprise, lundi, François Bayrou n'obtiendra pas la confiance des députés malgré un marathon médiatique et politique. À quoi a donc servi la semaine du Premier ministre? Pendant ce temps, la gauche s'organise sans les insoumis. L'alerte de la Cour des comptes, le gaspillage des médicaments, des pansements, des compresses coûte cher à la France, des centaines de millions d'euros. Comment y remédier? On en débat ce soir. Et puis Vladimir Poutine qui répond aux Européens en menaçant de cibler les soldats occidentaux qui viendraient en Ukraine. L'Ukraine qui joue ce soir contre la France, c'est du football, match de qualification pour le Mondial. Nos informations ce soir, Franck de Dieu. Bonsoir Franck.
Bonsoir Victor.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Marianne. Véronique Reissoult, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de Backbone Consulting, maîtresse de conférences en communication de crise à Sciences Po. Et Quentin Calmet. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Victor.
Journaliste politique à Public Sénat. L'appel avait été lancé, souvenez-vous, avant l'été, tout bloqué le 10 septembre, c'est mercredi prochain. Le gouvernement se prépare en cas de débordement. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a donné ses consignes.
Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires, etc. Mais j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander... De faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloquées.
Bruno Retailleau, lors d'un déplacement, c'était ce matin à Clermont-Ferrand. Véronique Reissoult, on l'entendait, action spectaculaire, dit le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement a-t-il raison de s'inquiéter? Qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux?
C'est un mouvement qui inquiète, mais qui est compliqué à comprendre, parce qu'en fait, depuis quelques temps, beaucoup des discussions se passent de façon privée, on va dire, alors sur des messageries cryptées, sur Telegram et sur Signal, beaucoup sur Signal même. Il y a une petite... Alors, il y a plein d'analogies qui sont faites avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a quand même quelques différences. D'abord, c'était sur Facebook. Il y avait une demande bien précise. Ça a commencé par une pétition. Il y avait une convergence. Et surtout, c'était vraiment... On ne l'a pas vu venir. Enfin, les politiques ne l'ont pas vu venir. Et puis surtout, il n'y avait pas de peur de récupération dès le début. C'était l'expression d'une colère. Et d'ailleurs, les pages Facebook étaient des pages fermées. C'était très facile de pouvoir rentrer dans ces pages. Il suffisait de dire « je veux vous suivre ». Et ça devenait des pages presque ouvertes, quoi. Alors que là, c'est compliqué. Il y a une forme de méfiance. Et surtout, ils ne veulent absolument pas être récupérés, au point où c'est donc Coluche
qui
devient...
C'est ce qui explique que ces pages soient fermées comme ça?
Oui, ils se méfient les uns des autres, et quand vous voulez rentrer dans ces pages, eh bien en fait, il faut montrer blanc-seing, c'est plus compliqué, c'est souvent des petits groupes qui essayent de se réunir aussi dans la vraie vie, donc c'est très compliqué d'anticiper la réalité de la mesure, et eux-mêmes, sur ces espaces, ils sont en train de se demander quelles sont les actions qu'ils pourraient mener, qui seront suffisamment visibles pour qu'on comprenne qu'ils sont là et qu'ils agissent, mais que ça ne soit pas récupéré ni par les syndicats, ni par les partis politiques qui considèrent comme étant partie du problème dans le fond, puisqu'ils sont là depuis toujours.
Et vous avez commencé à l'évoquer, Véronique, il y a un nom qui revient, qui était inattendu, mais oui, une personnalité qui est disparue depuis des dizaines d'années.
C'est Coluche qui, en fait, est la personnalité. Alors, grâce à l'IA, il revit, il est là. Il y a des tas de films qui circulent. En fait, parce que c'est il est vu comme un citoyen, comme non politique, comme ayant changé les choses, comme ayant trouvé des solutions pour les
Avec
Français.
Avec sa presque candidature en
1981. Presque candidature. Il y a même des gens qui imaginent ce que ça aurait donné s'il était resté, s'il n'était pas décédé. Oui, il est un symbole qui symbolise bien le fait qu'on ne veut pas être récupéré par des partis, qu'on a compris qu'il fallait une figure. Et donc, dans le fond, ça pourrait être lui. On va dire que c'est un mouvement qui est peut-être sans doute en devenir, avec un dernier point qui est, c'était beaucoup sur les jours fériés, c'est ça qui avait cristallisé. Depuis l'annonce du vote de confiance et le presque non surprise du résultat de lundi, ça bascule sur autre chose. Le 10 deviendrait plutôt un mouvement contre Emmanuel Macron, et de nouveau, ça va faire converger, parce que là, qu'on soit à droite, à gauche, syndiqué, pas syndiqué, c'est une demande qui est commune.
Quentin Calmet, on parlait effectivement de ces actions spectaculaires dont parlait Bruno Retailleau. Les violences que certains évoquent. Certains disent d'ailleurs qu'ils n'iront pas parce qu'ils ont peur de ces violences. Ça va être le cas, selon vous?
En tout cas, on voit que Bruno Retailleau tente de politiser au maximum cette séquence en disant que c'est une mobilisation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est un mouvement de gauchistes. Peut-être aussi pour enfermer ce mouvement de gens qui pouvaient venir de d'autres horizons, qui se retrouvent aussi cantonnés, catalogués avec ce mouvement. Bruno Retailleau a dit cet après-midi, sur le 10, très clairement, on voit bien que le mouvement s'est gauchisé. Monsieur Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, aidée par la CGT, qui va être à l'œuvre. Et donc, comme ça, vous pouvez cantonner ce mouvement à non pas, effectivement, la France périphérique, la France moyenne, qui se réveillerait, comme avaient pu faire les Gilets jaunes, mais bien, en fait, une mobilisation.
Il cible l'ultra-gauche, alors qu'on disait que c'était parti au départ de messages plutôt de l'autre bord, plutôt de l'extrême droite.
Oui, mais en vrai, Jean-Luc Mélenchon semble lui donner raison, parce qu'il s'est très vite harnaché au mouvement. Alors, d'abord, en disant que c'était pas le rôle des partis de suivre ou de guider les mouvements sociaux, mais finalement, au cœur de l'été, au moment des universités, de la France insoumise, en disant qu'il allait soutenir massivement ce mouvement. Donc c'est vrai que ça rend encore plus protéiforme et encore plus difficile à saisir. Ce mouvement né en mai sur les réseaux sociaux, qui est monté en puissance en juillet, récupéré par la gauche effectivement, maintenant pointé du doigt par la droite comme étant un mouvement de gauchiste, ce qui fait qu'on voit vraiment plus trop comment il est défini, mais comment il se définit lui-même.
Avant de vous donner la parole, Franck Dedieu, encore un mot avec vous, Véronique Reissoult.
Allez-y, je vous écoute.
Nous parlions effectivement de ces accusations de Bruno Retailleau sur Mélenchon, sur la CGT. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est la gauche et l'extrême-gauche qui massivement...
Si on regarde sur les volumes, oui, quand Jean-Luc Mélenchon s'empare du sujet, il y a un vrai pic de volume, un intérêt. Après, ce qui est intéressant sur des mouvements de ce type-là, c'est ce qu'on appelle faire du slacktivisme, c'est de l'activisme en ligne, donc c'est peu engageant, c'est le taux d'engagement. Et en revanche, le taux d'engagement a nettement baissé à partir du moment où il est arrivé. Donc on sent bien que c'est pas si simple. Donc les politiques qui essayent d'instrumentaliser pour minimiser le mouvement ont sans doute raison, parce que c'est le moment où les uns et les autres se sont un peu séparés. Pour autant, comme on n'arrive pas à savoir exactement comment ils ont envie de s'organiser, ça ne sera pas si simple que ça, mais c'est vrai que le politique, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, a fait grimper le mouvement en volume, en visibilité, mais pas en engagement.
Avec une colère, on l'a dit, Franck Dedieu, qui a un peu changé de destinataire. Peut-être François Bayrou au début, avec l'annonce de ces 44 milliards d'économies à réaliser, et puis sachant qu'il n'est plus là pour longtemps, ça a changé de visage chez Emmanuel
Macron. C'est pour ça que ce mouvement s'est politisé au fil du temps. Il a commencé par la question des deux jours fériés, donc il touchait un peu au monde du travail, c'est-à-dire au monde du pouvoir d'achat. Et de ce point de vue-là, il était assez proche des Gilets jaunes, non peut-être pas sociologiquement, mais dans sa revendication. C'est ce qui lui a permis, il y a quand même un paradoxe dans cette histoire, c'est qu'il lui a permis d'être, je dirais, populaire. Il y a une sorte d'empathie. Aujourd'hui, le profil, le ministre de l'Intérieur n'a pas tout à fait tort. Le profil dressé par des sondages, notamment par la Fondation Jean Jaurès, disait « Vous avez... 51% qui se disent d'extrême gauche, vous avez que 3% de ceux qui veulent participer qui ont voté Marine Le Pen. Donc effectivement, vous avez tout de même, je dirais, un univers d'extrême gauche qui éloignerait du monde du travail, qui a été la force en vérité des Gilets jaunes. Et c'est vrai que si ça prend une allure un peu anarchisante, si ça prend une allure un peu nuit debout, un peu mouvementiste, effectivement, ce monde-là ne s'y retrouvera pas. Mais il y a tout de même un paradoxe. C'est que malgré cela, vous avez une opinion publique qui est majoritairement favorable. Contraste entre peu de gens qui veulent rentrer dans ce mouvement et qui sont marqués politiquement, et tout de même une opinion publique qui est très favorable. La question qui va se poser demain pour savoir s'il y aura un après 10 septembre, comme il y a eu des Gilets jaunes, des actes 2, des actes 3, c'est la question, je crois, du monde du travail. Pour l'instant, les syndicats n'ont pas véritablement embrayé. Ils ont leur 18 septembre, peut-être on en reparlera.
Journée intersyndicale.
Effectivement, à mon avis, le point clé, c'est la question du travail.
Quentin Calmet, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Le travail, point central, et une mobilisation qui pourrait durer ou non?
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, sachant qu'il y a quand même des secteurs d'activité où vous avez des syndicats qui se mobilisent pour cette journée-là, celle de mercredi prochain. On pense à la SNCF, il y a Sudrail, Sudaérien pour les airs. Il y a la CGT Cheminot. On pense aussi à l'hôpital public où vous avez toute une série de syndicats, CGT, FO, CFTC, UNSA, qui font grève le 10. Vous avez aussi des initiatives qu'on va pouvoir suivre. Est-ce que les étudiants vont bloquer leur collège, leur lycée, leur fac? On voit que Bruno Retailleau a dit que c'était parmi les choses que voilà, les préfets devaient surveiller et empêcher. Donc on va voir si ces secteurs d'activité qui peuvent paralyser une partie du pays vont se mobiliser fortement.
Parce qu'il parle de sites sensibles, c'est pas du tout lesquels pour l'instant.
Non, voilà, tout à fait. Il peut y avoir même quelques points où vous bloquez Rungis, etc. Et ça devient tout de suite très impressionnant. Donc on verra si c'est suivi dès la semaine prochaine ou si c'est effectivement la semaine d'après, la semaine où c'est les syndicats qui appellent à se mobiliser, où là vraiment ça va bloquer avec des mouvements qui pourraient être même de jour en jour, quoi, 18, 19, 20, et des blocages sur
plusieurs jours d'affilée. Et la fonction publique dans son intégralité, l'enseignement.
Oui, là, ce que l'Élysée semblait craindre davantage de ce qu'on lisait ce matin que le mouvement de la semaine
prochaine. Le pouvoir politique.
Vous évoquiez tout à l'heure le mouvement Nuit Debout, on va rappeler, bien sûr, c'était cette mobilisation à la fin du quinquennat de François Hollande où des jeunes, notamment de gauche, s'étaient réunis sur les places des grandes villes. Véronique Reissoult, à quoi ça pourrait ressembler justement ce 10 septembre? Est-ce qu'il y a une opposition entre la ville, la campagne?
Il y a à la base les actions, en fait, ce qui était proposé était des actions assez simples où tout un chacun pouvait participer. Mais ce que vous venez tous de dire, ben en fait, les militants du début sont assez conscients en disant, mais si par exemple mon acte militant est de ne pas acheter quoi que ce soit dans la journée, comment on va le mesurer? Et ils comprennent bien que
C'est tout bloqué, ça peut recouvrir beaucoup de réalités.
Il y avait plein de propositions et qui séduisaient plutôt les gens, mais après ils sont en train de se dire, enfin on voit sur tous les groupes en train de se dire, mais comment on va faire pour que ce soit visible? Parce qu'on sait bien qu'un mouvement.
Il y a une proposition qui est de ne pas utiliser sa carte bleue ce jour-là.
Mais comment on sait?
Est-ce que ça va vraiment. Voilà,
mais c'est ça, en fait, les gens sur les groupes, ils disent, admettons qu'ils le fassent, comment on sait que la non-utilisation est réelle? Quel est le pourcentage? En fait,
autre idée, bloquer les péages, les barrières des péages, pour le coup, beaucoup plus visibles.
Voilà. Ça, c'est visible. Mais ils essayent de trouver des éléments qui sont un peu différents de ce que peuvent proposer les syndicats ou ce qu'il y a habituellement, et en disant, il faut que ce soit visible pour qu'on puisse le compter et qu'on puisse dire.
On a vu l'hashtag rond-point aussi qui est revenu.
C'est ça. En fait, ils essayent. Les ronds-points, c'était visible, on pouvait compter le nombre de ronds-points.
Là, on peut imaginer aussi des mobilisations sur les ronds-points.
Alors j'en ai vu moins, mais pourquoi pas. En fait, ils sont en train de se dire, on a encore quelques jours pour trouver des actions très concrètes qui seront mesurables pour que les médias et que les politiques puissent compter et dire,
il y a presque une symétrique par rapport aux gilets jaunes. C'est-à-dire, on porte un gilet jaune parce qu'on veut être vu, alors qu'on est invisible. C'était Là, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on va... L'expression de notre ras-le-bol, de notre blocage, on a un problème, c'est qu'il ne va pas se voir. Il ne va pas se mesurer. Et donc, c'est absolument l'inverse du point de vue. C'est-à-dire, la morale de l'histoire, c'est que lorsqu'on a une ambition un peu révolutionnaire, je ne dirais pas insurrectionnelle, eh bien, il faut que ça se passe dans un endroit qui relève de la cité, de la République, de la cité, de la vie de la cité. Ça ne se fait pas en face d'un ordinateur.
Quentin ?
Oui, juste un chiffre pour finir... sur les chiffres, on verra si la mobilisation est vraiment importante.
100 000 participants, voilà. Pour l'instant, le renseignement territorial.
Exactement. C'est le chiffre sur lequel planche pour l'heure le renseignement, c'est 100 000 personnes mobilisées. Et donc, c'est à rapporter à la première journée de mobilisation des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018, où c'était 282 000. Donc, on verra si on est dans les mêmes ordres de grandeur, si les renseignements ont mal calculé leur coût. Est-ce que, finalement, le chiffre est plus proche des Gilets jaunes ou supérieure, ou si on reste autour de ces 100 000 personnes mobilisées, quelqu'un, on peut se dire que c'est pas un mouvement d'ampleur plus que ça, comparé à ce qu'on avait vécu en 2018.
Et pour continuer dans la comparaison avec les Gilets jaunes, Véronique Reissoult, à l'époque, il y avait eu ce mot d'ordre dès le début contre cette taxe carbone, c'était très précis. Là, c'est un peu plus fouillis, on va dire, il y avait contre le budget, mais avant cela déjà.
Si, c'était une taxe, c'était les 80 km/h. Il y avait deux demandes très précises. C'était parti aussi de pétitions et de vidéos qui permettaient de mobiliser et d'expliquer le mot d'ordre. Là, c'est plus compliqué. Le seul moment où il y a eu une espèce de convergence des demandes, c'était les deux jours. Ça a vraiment mobilisé. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui disaient il faut se révolter contre le plan. Mais dans le fond, il n'y a que deux mesures que les gens comprenaient vraiment, qui étaient les deux jours et l'année blanche. Mais le reste, ils disaient, c'est un peu flou quand même.
Les Gilets jaunes ont créé un processus d'identification au mouvement, tout simplement parce que les mots d'ordre étaient simples et ils avaient une résonance par rapport à la vie quotidienne de l'ensemble de la classe moyenne, par-delà leurs opinions politiques. À partir du moment où le mouvement est politiquement très marquée, que ça soit à droite comme à gauche, eh bien forcément, vous retrouvez cette polarisation à l'Assemblée, peut-être va-t-on en parler, vous la retrouvez aussi au niveau de la rue, dans les villes, à la périphérie, et donc vous ne pouvez pas avoir un mouvement massif d'empathie. Mais peut-être, pour l'instant, je suis assez étonné, Véronique peut-être nous éclairera, c'est qu'il y a un contraste, comme je disais, entre peu de gens qui sont mobilisés et très politisés, et pourtant, malgré tout, 54% des gens qui soutiennent, c'est quand même beaucoup. Est-ce que ça restera au lendemain du 10, en fonction du degré d'acceptabilité de ce qui se manifestera lors du 10, on verra.
Oui, avec, je pense que ça n'échappe à personne en France, une situation politique qui est dans une impasse complète. Peut-être au moment de la mobilisation du 10, un gouvernement qui sera démissionnaire, ça fait peut-être réfléchir aux des gens qui voulaient aussi se mobiliser. À quoi bon partir manifester quand il n'y a personne pour répondre à vos demandes sociales ou sociétales? C'est-à-dire que le gouvernement sera à ce moment-là dans une impasse et vous ne pouvez pas porter des revendications quand vous avez un gouvernement et un paysage politique qui est lui-même au sol. Ça peut aussi expliquer cette mobilisation en demi-teinte alors qu'effectivement il y a un ras-le-bol général de la situation, des gens qui ont le sentiment de mal vivre au quotidien, mais aussi une situation politique qui est dans une telle impasse qu'une même une mobilisation aussi forte donnerait forcément pas grand-chose.
Et avant le 10 septembre, transition toute trouvée, il y a donc le 8, c'est lundi, dans 3 jours, ce vote de confiance et la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou, le Premier ministre qui s'est encore défendu ce matin.
Simplement, il faut savoir si vous avez un cap et si vous êtes capable de suivre ce cap. Et si vous êtes capable de défendre ce cap. Et c'est ce que je fais.
François Bayrou sur RTL, avant de terminer dans la journée ses consultations à Matignon. Quentin Calmet, journaliste politique à Public Sénat, à quoi elle a servi cette semaine de rencontres politiques et médiatiques?
C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, malheureusement. Je pense que même les gens qui sortaient de Matignon, puisqu'on faisait les interviews devant la porte de la sortie, ils étaient pas sûrs de savoir pourquoi ils avaient été convoqués, hein. Parce que s'il y avait eu une négociation,
beaucoup, Jordan Bardella, Olivier Faure dit bah on est poli, on nous a invités, on y va.
Voilà. Mais même dans l'esprit de François Bayrou, on se demande à quoi est-ce qu'elle a vraiment servi cette semaine de négociation, puisque au moment où il recevait chaque groupe politique, il multipliait les rendez-vous dans les médias pour dire que le constat était celui qu'il avait posé le 15 juillet, qu'il fallait faire les 44 milliards d'euros d'économie, et que ce constat-là, il était globalement pas négociable, et que si on voulait enlever les deux jours fériés, il fallait immédiatement compenser les 4 milliards de l'équation au total. Donc au moment où vous multipliez les rendez-vous médiatiques pour dire ça, quel est l'intérêt de faire semblant de recevoir des gens si vous n'avez rien à leur donner, rien à échanger? Donc sur la semaine qu'a vécu François Bayrou, c'est un baroud d'honneur. Certains disent le chant du cygne. Voilà, il veut sortir par le haut. Voilà, je pense que même avant l'été, il était à peu près certain qu'il allait échouer avec le budget. Je crois qu'il a décidé de prendre les devants. Certains disent se faire harakiri, pas subir la décision des autres, mais l'anticiper, prendre le premier.
Et Emmanuel Macron lui aussi a multiplié les rendez-vous. Il a déjeuné encore aujourd'hui avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Quel rôle il joue dans cette séquence, Gérard Larcher, je ne sais pas qui veut répondre, Quentin Calmet ou Franck Dedieu.
C'est le deuxième personnage de l'État. Non, je crois que c'était dans le roulement des prises de position de chacun. Emmanuel Macron travaille sans doute à l'après. Savoir qui pour remplacer François Bayrou. Je crois qu'il a lui-même compris que François Bayrou était quasiment certain de devoir démissionner lundi. Et vous traitez un personnage aussi important que Gérard Larcher pour lui demander son opinion. Gérard Larcher qui a plaidé pour que le prochain Premier ministre vienne toujours de ce bloc central. Donc Gérard Larcher,
il y croit toujours.
Non, il a écarté l'idée auprès de nos confrères du Figaro en disant que le Sénat était l'une des dernières chambres de stabilité politique sur l'échiquier politique français, qu'il fallait garder cette assise-là, que du coup, il n'avait pas à aller à Matignon. Mais on sait aussi qu'il y a 8 sénateurs qui sont ministres, donc eux aimeraient rester en place, même la porte-parole du gouvernement. Enfin, ce sont des gens qui viennent aussi du Sénat, qui aimeraient continuer leur action, d'où le fait que c'était légitime aussi de solliciter Gérard Larcher.
Il y a un nom, Franck Dedieu, qui est évoqué pour Matignon, c'est celui du ministre actuel de l'économie, Éric Lombard. La gauche, en ce moment, essaye de travailler à l'après-Bayrou. On sait qu'elle a des contacts, justement, avec Éric Lombard. Ça pourrait être une option.
Ça peut être une option parce qu'il s'est montré dans l'équipe de Bayrou, je dirais, le plus, entre guillemets, le plus fiscophile. Alors, certes, il a dit qu'il n'y aura pas d'ISF, il n'est pas question du retour de l'ISF. Puis, il a montré une forme de souplesse. Il a des contacts avec des socialistes, bien sûr. C'est un membre des GRAC, donc l'aile la plus libérale, la plus socio-libérale des socialistes.
Et également proche d'Olivier Faure.
Proche d'Olivier Faure, des contacts avec Place Publique. En vérité, cette semaine-là, pour répondre à la question précédente, elle n'a pas eu véritablement d'effet par rapport aux lignes de force définies au sein de l'Assemblée. En revanche, elle a permis tout de même un constat qui fait à peu près consensus, c'est l'idée de se dire on ne va pas proroger le droit de faire 6% de déficit, il faut réduire le déficit. Là où il y a un désaccord majeur, c'est pas sur... pas beaucoup sur le montant de la réduction des déficits, c'est sur comment on va le faire. Et de ce point de vue-là, Lombard apparaît comme celui qui peut dire on va, je dirais, faire des efforts sur la baisse des dépenses, mais aussi on peut demander un peu plus d'efforts aux plus riches. C'est peut-être là-dessus qu'il y a quelque chose à négocier de la part des socialistes. Je rappelle
ce qui rejoindrait leur volonté de mettre en place la taxe Zucman, voilà. Même si on n'arriverait peut-être pas à la taxer
exactement.
Les plus
riches. C'est-à-dire qu'entre 0,5% du patrimoine la contribution des plus riches, telle que pensée par Bayrou, et la taxe Zucman qui rapporterait beaucoup plus, entre 15 et 25 milliards, effectivement, il peut y avoir un entre-deux qui favoriserait, alors c'est très difficile à ce stade-là de répondre, mais qui favoriserait une forme de convergence entre des centristes qui pourraient ne pas vouloir assumer, je dirais, le désordre institutionnel et parlementaire, même des LR, puisqu'on a vu que Wauquiez a dit « moi j'aurais peut-être du mal à censurer quelqu'un issu de la gauche, mais qui soit tout de même raisonnable », et même le Parti Socialiste. Je veux dire que, en gros, pour faire simple, vous avez Michel Barnier comme François Bayrou qui disait la chose suivante: l'effort doit reposer à 2/3 sur la baisse des dépenses, c'est-à-dire toucher les classes moyennes et les services publics, et à 1/3 sur la fiscalité, c'est-à-dire... Voilà. Et en gros, les Français, ils sont d'accord sur le fait de faire des efforts. En revanche, ils sont à la recherche d'un équilibre. Et 2/3, 1/3, ça leur va pas quand ils constatent qu'il y a des fortunes qui se sont réalisées en très peu de temps, et qu'il est possible de faire en sorte que ceux qui se sont enrichis très vite contribuent davantage que les autres. Il y a un certain consensus là-dessus.
Et il y a un symbole aussi, peut-être, quand un calmet qui serait étrange, entre guillemets, c'est de voir l'actuel ministre du budget, justement, sujet ultra tendu, arriver à son tour à Matignon.
Tout à fait, oui, c'est ce que disent les parlementaires de gauche, hein, lorsqu'on leur dit « Ah oui, mais Monsieur Lombard a été nommé parce qu'il est proche d'Olivier Faure, il peut être une main tendue comme ça aux socialistes, les réarrimer à une forme de bloc central qui serait une grande coalition comme ça sur un constat de la gravité de la dette. » Les parlementaires de gauche disent c'est une incongruité, ça n'a aucun sens. Eux, ils refusent toujours cette option pour l'heure.
Et en même temps, la gauche, sans les insoumis, joue, on va dire, le jeu de l'après-Bayrou en s'imaginant à Matignon, ils n'y croient pas vraiment.
En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'ils plaident. Ils disent qu'eux peuvent tenter un ministre socialiste, un premier ministre socialiste à Matignon, qui n'utiliserait pas le 49-3, donc qui ne braquerait pas l'Assemblée nationale et qui, du coup, ne déclencherait pas non plus automatiquement de vote de censure, mais qui chercherait des majorités projet par projet. Effectivement, on voit mal comment ça peut tenir dans une assemblée aussi composite que celle qu'on décrit depuis un an. En revanche, voilà, eux, c'est leur plaidoyer depuis une semaine. Et je voudrais juste commenter quelque chose qu'a dit Franck. Parce qu'effectivement, on entend François Bayrou un peu s'enorgueillir d'avoir fait réaliser à la France entière qu'il y avait un déficit abyssal et une dette colossale. Mais personne n'a jamais plaidé ou prôné plus de déficit dans un programme. Je rappelle que le 6% de déficit de cette année, c'est un dérapage, quelque chose que personne n'a vu venir, que Bercy aussi a découvert en relevant les niveaux de TVA. Alors, et que maintenant, on subit parce que les taux... pour emprunter vrai. Sur les marchés, deviennent à nouveau énormes et que notre dette est à nouveau un problème.
Non, les taux ne deviennent pas énormes. Il faut arrêter avec ça. Les taux ne deviennent pas énormes du tout. On est à 3,5%. Il y a 2% d'inflation.
On emprunte plus cher qu'avant.
On emprunte plus cher qu'avant, mais ça fait 1,5% de taux réel. C'est historiquement relativement...
Je voulais qu'on entende Véronique Rissoud.
Non, mais juste... par rapport à cela, je m'inscrivais, il a tout à fait raison, mais par rapport au déficit et à la prorogation de déficit important, je m'inscrivais dans le long terme. Je pensais à Jacques Chirac qui négocie avec Schröder de pouvoir faire un peu plus de déficit. Je parlais de Sarkozy qui disait « je vais aller chercher avec sa loi TEPA la croissance avec les dents pour justifier qu'on va faire un peu plus de déficit ». Quelque part, cette potion-là, il y a un consensus aujourd'hui pour que ça ne se fasse plus.
Véronique Reissoul, qu'est-ce qu'on dit de tout ça sur les réseaux sociaux?
On va dire qu'au moment du vote de confiance, il y avait une surprise, mais les gens avaient compris que c'était pour éviter justement le débat qu'il y avait là, de dire est-ce qu'on est d'accord sur le constat, les sommes, pas d'accord sur le plan, mais... Bah. Donc au début, ils ont plutôt trouvé ça courageux et en disant, bon, bah, à la limite, de toute façon, il allait sans doute sauter, donc au moins, ça permet de faire une base. Après, à partir du dimanche soir, quand le Premier ministre va
s'exprime sur les chaînes de télévision,
aux 20h, voilà, ça commence dès le 20h, ils se disent, bon, en fait, c'est pas si clair que ça, est-ce que c'est le plan, pas le plan, enfin, ça commence à être moins bien. Et depuis, en fait, il y a une espèce de d'abord le petit jeu des noms pour Matignon, c'est pas du tout un sujet que suivent les Français, en disant de toute façon tous les noms qu'on va donner ça sera pas ça, donc on va gagner du temps, on va pas les commenter. Ensuite globalement ils disent en fait on sait pas à quoi on va être mangé, il n'y a pas de mesure claire, et donc en fait c'est plus une inquiétude et une forme d'exaspération contre la classe politique, parce que vous avez plus de 74% des Français qui leur font pas confiance, il y a 71% des gens qui disent de toute façon, la démocratie, elle fonctionne mal, donc continuons comme ça. Donc en fait, ça crée quelque chose qui est... C'est même pas un mécontentement contre le Premier ministre, c'est contre la classe politique en disant « mais arrêtez votre cinéma, le truc ne fonctionne pas, mettez-vous d'accord, trouvons un moyen, parce que... » Voilà.
Et effectivement... C'est le sujet précédent, et le rejet notamment même
exactement.
De Jean-Luc Mélenchon
exactement.
Avant le blocage du 17.
Le seul point qui fait consensus, c'est effectivement, il faut faire payer les riches, mais le sujet est qu'il y a toujours... Même les riches trouvent que c'est pas les riches eux, mais d'autres riches au-dessus. Donc en fait, c'est le sentiment qu'il y a toujours quelqu'un qui gagne plus que vous, qui devrait payer.
C'est pour ça qu'il y a un débat, je sais pas si... En deux mots, il y a un vrai débat entre l'ISF qui touchait 400 000 personnes qui rapportait 5 milliards, en gros, et la taxe Zucman qui va toucher 1800 personnes, donc beaucoup moins, mais qui va rapporter beaucoup, entre 15 et 25 milliards. Donc on n'est pas du tout dans les années Pierre Mauroy de 82 avec l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, on n'est pas du tout dans les années Hollande avec les 75% des revenus, on est face à une infime minorité de gens qui représentent un gisement fiscal énorme. Et croyez-moi, que vous soyez de gauche ou de droite, quand vous êtes ministre du budget, ce gisement fiscal-là, il est énorme et ça m'étonnerait que ça se passe en l'état quand vous avez de tels déficits publics.
Franck Dedieu, Véronique Reissoul, Quentin Calmet, vous restez avec nous. La seconde partie des Informés dans un instant, il est déjà 20h31. France Info, Emmanuel Langlois.
Bruno Retailleau en déplacement à Clermont-Ferrand aujourd'hui où les points de deal se multiplient, déplacement sur le thème de la lutte contre le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi en renfort de 22 policiers dont 17 sont déjà arrivés, le déploiement aussi d'une unité de CRS mobile. Il précise enfin que la mairie de Clermont-Ferrand va étendre son réseau de vidéosurveillance grâce à une aide de l'État à hauteur de 160 000 euros. À l'étranger, l'armée libanaise, elle va commencer à désarmer le Hezbollah. C'est ce qu'on indique à l'issue d'une réunion du gouvernement consacrée à cette épineuse question qui divise le pays. Le mois dernier, sous la forte pression des États-Unis et la crainte aussi d'une intensification des bombardements israéliens, le gouvernement libanais avait ordonné à son armée d'élaborer un plan visant à désarmer donc le mouvement chiite iranien d'ici la fin de cette année. C'est une première. L'Organisation mondiale de la santé ajoute plusieurs traitements contre l'obésité et le diabète à sa liste de médicaments essentiels. Vu leur prix très élevé, qui peuvent dépasser par exemple les 1000 dollars par mois aux États-Unis, eh bien l'OMS souhaite le développement rapidement de médicaments génériques. Les demi-finales de l'US Open de tennis, c'est pour ce soir. La première opposera Novak Djokovic en quête d'un 25e titre, un record en grand chelem, et le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz à partir de 21h, heure de Paris. Et l'autre match à 1h du matin, heure française, si vous veillez tard, mettra aux prises l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, et le Canadien Félix Auger-Aliassime. L'équipe de France de football, elle lance son sprint de 70 jours vers le mondial 2026, la dernière campagne qualificative de l'ère de Didier Deschamps. Les Bleus qui affrontent d'entrée leur adversaire le plus redoutable, l'Ukraine, ce soir à Wrocław en Pologne. C'est à partir de 20h45. Donc, enfin, avis aux amateurs, la billetterie pour visiter l'Élysée dans le cadre des Journées du patrimoine dans 2 semaines a ouvert tout à l'heure à 19h. Mais l'an dernier, les créneaux de visite étaient complets au bout d'une heure. 10 000 visiteurs sont attendus pour ce week-end, avec ce week-end en question, avec une nouveauté cette année. Les curieux pourront virtuellement, au milieu de vraies images, assister au défilé du 14 juillet aux côtés du chef de l'État.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matray.
Avec ce soir dans le studio de France Info, Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting et maîtresse de conférences en communication de crise à Sciences Po, Franck Dedieu, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Marianne, et Quentin Calmet, journaliste politique à Public Sénat. À l'heure où l'on cherche des économies, venons-en à ces tonnes de médicaments qui finissent chaque année dans nos poubelles. Ce gaspillage a un coût entre 500 millions et 1 milliard et demi d'euros, c'est ce que dit la Cour des comptes, qui appelle à identifier les produits les plus jetés et les raisons aussi de ce gaspillage, phénomène que connaît bien Ghislaine Sicre. Elle préside le syndicat d'infirmiers libéraux Convergence. Voilà ce qu'elle constate chez ses patients.
Alors, ce qu'on gaspille le plus, c'était le Macrogol Doliprane, mais aussi la metformine, qui est un médicament antidiabétique. Et il y a également les doses. Parfois, par exemple, les insulines, c'est un temps de dose par jour pour le patient. Elles ne sont pas forcément comptabilisées correctement, ce qui fait qu'on vous délivre tous les mois des stylos à insuline qui restent dans les frigidaires.
Bon, le constat est là. Comment on stoppe le gaspillage, Quentin Calmet, vraiment? Est-ce qu'on peut agir, par exemple, sur les laboratoires?
Mais justement, Ghislaine Sicre, elle donnait des solutions dans les interviews que j'ai pu lire dans la presse. Elle disait des choses de bon sens, hein, des choses toutes simples, mais qui peuvent être faites immédiatement. Le fait que les pharmaciens devraient demander si il ne reste pas aux patients des exemplaires de médicaments avant de les fournir. Ça semble tout bête, mais même si vous le demandez, bah, des fois, c'est
ranger sa
la réponse
en quelque sorte à la maison pour
du Doliprane. Oui, du Doliprane, beaucoup de gens en ont. Est-ce qu'à chaque fois il faut récupérer la boîte de Doliprane quand elle est sur l'ordonnance? C'est une bonne question. Vérifier si les patients prennent effectivement leur traitement, parce que des fois les pharmaciens vont délivrer tout ce qu'il y a sur l'ordonnance, alors que le patient va dire non, en fait, celui-là, je ne le prends pas parce que je l'ai déjà, ou parce que celui-là, il a des effets négatifs, etc. Donc, elle donne elle-même des petites réponses. Et puis, sur la question qui est plus générale de, ensuite, comment est-ce qu'on fait avec d'autres échelles, il y a des débats sur le conditionnement à l'unité. Ça, c'est vraiment un débat qui revient très, très fréquemment. Alors, j'ai regardé à nouveau ce aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça n'avançait toujours pas, puisqu'on se dit, ça a l'air d'être
parce que ça marche
la solution.
Anglais, par
voilà, aux États-Unis, on vous délivre les fameuses petites boîtes orange avec le nombre de comprimés pour la durée du traitement. Eh bien, on lit que c'est les syndicats de pharmaciens qui sont très méfiants avec cette mesure. Ils ont peur de la surcharge de travail que ça représenterait dans les officines, aussi des conditions sanitaires de,
c'est ce que j'allais dire, ce
voilà,
fait le conditionnement,
d'ouverture des paquets et ensuite de les remettre dans d'autres paquets. Donc voilà, on voit qu'il y a des freins. Est-ce que le bon sens peut pas faire évoluer aussi un peu les choses très rapidement? C'est la question qu'on se pose en lisant les articles aujourd'hui.
Est-ce que le bon sens s'empare des Français, Véronique Reissoult, sur ce sujet?
En fait, ils n'en ont pas beaucoup parlé. Ceux qui en ont parlé sont des gens qui en parlent depuis longtemps, donc ils ont plutôt profité de l'actualité pour rappeler. Il y a effectivement des groupes assez nombreux, en particulier sur Facebook, qui depuis longtemps prônent le système à l'unité ou au dosage, en montrant qu'en Allemagne ça fonctionne bien, etc. Il y a eu plus de bruit, paradoxalement, sur le système de compensation qui a été évoqué aussi aujourd'hui, mais et en particulier sur les trajets en taxi, mais enfin les taxis qui emmènent les diabétiques, par exemple, ou les dialysés. Mais ce n'est pas un sujet qui a mobilisé, parce que dans le fond, tous les Français se sentent un peu coupables en se disant « Oui, je sais très bien que quand les médicaments sont périmés, il faut que je les ramène à la pharmacie, mais je ne le fais pas et souvent je les jette. » Et puis, globalement...
Oui, tout le monde pense à la boîte qu'il a chez lui et qui ne sait plus...
Et tout le monde se dit... Voilà. Donc, il y a des gens qui sont mobilisés et qui donnent plein de bonnes idées, qui donnent des lieux et des emplacements où on peut apporter les médicaments périmés ou pas loin d'être périmés. Mais globalement, le volume était faible, peut-être par ce sujet de culpabilité, je ne sais pas.
Question de la responsabilité, Franck Dedieu, justement, des patients, mais aussi des médecins. On parlait de la prescription.
Oui, notre modèle social, il est quand même fondé, il suppose le sens des responsabilités de tous les acteurs. Donc effectivement, Quentin a parlé, des malades, des consommateurs de médicaments, des médecins qui sont aussi, je dirais, surveillés lorsqu'il y a des incitations et des prescriptions manifestement trop importantes. Il y a les pharmaciens qui peuvent donner ça à l'unité, mais quand même, il y a aussi la question des laboratoires pharmaceutiques. Et moi, j'ai appris que le conditionnement est proposé par le laboratoire. C'est-à-dire que c'est lui qui a la main. Alors, effectivement, vous avez des autorités de régulation qui peuvent intervenir, qui ne le font pas assez, paraît-il. Mais s'il y a une chaîne des responsabilités, bon, il me semble qu'entre le pharmacien qui doit compter les cachets, le médecin qui a quand même beaucoup d'obligations administratives aujourd'hui et de plus en plus, et le consommateur qui peut être responsabilisé, mais enfin, tout de même, quand on va à la pharmacie, quand on va chez le médecin, on est dans une situation qui n'est pas forcément, par définition, enviable. Il reste quand même dans le maillon de la chaîne, c'est celui des laboratoires pharmaceutiques qui font quand même des profits et qui pourraient, de façon, je dirais, avec une certaine coercition de la part de l'administration, se faire imposer un conditionnement. Se faire imposer un conditionnement.
Alors, ils
ne le font pas parce qu'ils ont des chaînes de production qui sont de nature européenne ou mondiale. Mmh. Donc il faut qu'à chaque fois, selon la destination par
ça
pays
plus cher
du médicament, ça suppose qu'ils aient plus un coût de revient, un coût de fabrication qui est supérieur. Mais enfin, un coût de fabrication qui est supérieur lorsqu'on a des profits qui sont plantureux, eh bien, l'administration fiscale est en mesure de dire que ce n'est pas très grave.
Et l'autre piste qu'évoque la Cour des comptes, Quentin Calmet, c'est le recyclage, en disant d'ailleurs que ça ne marche pas bien.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a des filières absentes complètement. Je lisais la même chose que vous, Victor. Tout ce qui est béquilles, fauteuils roulants, déambulateurs, aussi les appareils pour faire pour avoir des produits dans le sang. Tout ça, il n'y a pas de filière de recyclage ou de remise en état de ces dispositifs. Ce qui fait qu'effectivement, une paire de béquilles qu'on a eue sur une ordonnance parce que on s'était blessé, certains vont être tentés de les mettre à la poubelle immédiatement plutôt que de les remettre en service. Là encore, on se dit c'est du bon sens, on aurait pu y penser depuis longtemps. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas déjà de façon massive en France avec des campagnes aussi de communication pour l'évoquer auprès des personnes concernées?
Véronique Rixoul.
Ce qui est clair, c'est que donc pas beaucoup de volume, mais par contre, c'est des gens qui sont souvent concernés, qui ont vécu le sujet. Et il y avait pas mal de remarques cet après-midi dans les messages.
Voyez.
Il y avait beaucoup de gens qui demandaient pourquoi est-ce que la sécurité sociale nous force à acheter et ne loue pas les béquilles, en disant on serait bien obligé de les rendre. Donc, de fait, on serait bien dans une logique de recyclage. Et il y avait plein de gens qui disaient qui n'ont jamais été confrontés au sujet, qui disaient on les loue pas, on doit les acheter. Enfin, donc, il y avait ce point-là. Et l'autre chose, c'était sur le conditionnement à l'unité et le sujet sur les laboratoires, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui expliquaient qu'aux États-Unis en particulier, mais dans pas mal de pays, en fait, quand vous allez dans une pharmacie, on compte effectivement les éléments, mais que les pharmaciens ont des très grosses boîtes avec, je sais pas si c'était un fantasme ou pas, mais ça avait l'air d'être assez précis, qui est que les laboratoires livrent des systèmes qui font que le pharmacien, c'est assez simple et c'est assez hygiénique aussi, parce qu'en fait, il n'a pas à manipuler, et il posait la question, mais pourquoi chez eux ça marche, et pourquoi pas chez nous, qui, je n'ai pas la réponse, mais visiblement...
Peut-être pas susciter beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, mais enfin...
C'est pointu comme débat.
Oui, c'est pointu, mais enfin, le résultat, c'est que vous pouvez faire jusqu'à 1,7 milliard d'économies. Je veux dire, c'est quand même extrêmement important.
C'est la fourchette haute évoquée par la Cour des comptes.
Vous avez raison.
Sur l'estimation.
Ça partait de 600 millions à 1,7 milliard. Mais enfin, ça fait quand même des sommes énormes. Pour vous donner une idée, si on est dans la fourchette haute, c'est l'équivalent du fameux jour férié... peut-être pas, mais on n'est pas loin de ce fameux jour férié en termes d'économie.
Enfin, je veux dire, le gouvernement parle de baisser de 5 milliards les dépenses de santé. On se dit que là, s'il y a
un quart ou un cinquième du chemin. Voilà.
Franck Dedieu, Véronique Reissoulté, Quentin Calmet, dans les informés ce soir, l'actualité internationale à présent avec l'Ukraine, la géopolitique qui s'invite sur les terrains de football. Bonsoir Nicolas Perronnet.
À tous.
Ukraine-France, premier match de qualification pour le Mondial 2026. Rencontre organisée en Pologne en raison de la guerre, bien évidemment. À Wrocław, où vous vous trouvez, très grande diaspora ukrainienne dans cette région. Cela se ressent dans le public ?
Oui, bah vous savez, un habitant sur quatre de cette ville, qui est la troisième ville de Pologne quand même, un habitant sur quatre est ukrainien ou a des origines ukrainiennes. Donc oui, ça se ressent parce que le stade, cette Tarzinski Arena, 40 000 places, eh bien, est quasiment pleine à craquer à deux petites minutes maintenant du coup d'envoi. Il y a juste une petite zone où il n'y a pas grand monde, c'est la zone des visiteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français. 400 supporters des Bleus seulement qui ont fait le déplacement. Sinon, il y a beaucoup de bleus, beaucoup de jaunes aux couleurs de l'Ukraine. Même si on est en Pologne, on vient d'entendre, d'écouter religieusement l'hymne ukrainien résonner dans cette enceinte. C'était quand même un grand moment. Et c'est vrai que ce drapeau bleu et jaune, eh bien, énormément de supporters ukrainiens. Ils sont 25 000 ce soir ici pour supporter leur équipe. Eh bien, l'ont sur les épaules ou sont carrément drapés par dans ces couleurs bleu et jaune de la sélection ukrainienne. C'est vrai que c'est une région ici où la sélection ukrainienne, la Zbirna, c'est son nom, a établi un petit peu sa terre d'asile. Hein. D'ailleurs, la Pologne, c'est là où l'Ukraine joue quasiment tous ses matchs désormais, entre guillemets, à domicile, puisqu'on le sait depuis la guerre. Depuis novembre 2021 même, cette sélection a dû évidemment quitter ses terres. Donc voilà, parmi les Ukrainiens qu'on a rencontrés depuis hier dans la ville, c'est vrai qu'on sent un fort sentiment d'appartenance à cette équipe de football ukrainienne. Ils savent que ce sont des joueurs qui pourraient arrêter de jouer au foot et partir sur le front. Donc ça crée quelque chose de fort entre la sélection et la diaspora ukrainienne, très nombreuse ici du côté de Wrocław. Et c'est vrai que ça se ressent alors que le coup d'envoi, Victor, va être donné dans quelques minutes pour ce premier match de qualification des Bleus face à l'Ukraine, donc ici en Pologne.
Avec cet enjeu énorme, hein, Nicolas, pour cette équipe ukrainienne, justement, d'aller chercher une qualification pour le Mondial.
Oui, l'Ukraine a participé seulement à une Coupe du Monde, c'était en 2006, d'ailleurs ça avait été une super Coupe du Monde pour l'Ukraine. On s'en souvient, hein, défaite en quart de finale face à l'Italie qui avait ensuite remporté la compétition. Sinon, eh ben, c'est vrai qu'en 7 participations possibles, la sélection ukrainienne reste sur 6 échecs. Mais vous savez, la Coupe du Monde aux États-Unis, enfin en Amérique on va dire, avec le Mexique et le Canada l'été prochain, c'est une Coupe du Monde à 48 équipes, donc l'Ukraine a sa place. Et c'est vrai que le symbole que serait envoyer au monde, tout simplement, la présence de cette équipe ukrainienne dans un an du côté des États-Unis, ce symbole serait évidemment très très fort.
Et donc, on entend, Nicolas, l'ambiance qui monte à côté de vous. Xavier Monferrand est à vos côtés d'ailleurs, parce que Xavier, le coup d'envoi vient d'être donné.
Ouais, effectivement, il y a quelques secondes, le coup d'envoi, les sifflets, ça c'est parce que les Bleus qui jouent en blanc ce soir ont le ballon ici sur le terrain, les premières secondes de ce match important aussi pour les Français, parce que c'est le début de la campagne de qualification, la dernière de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. 6 matchs pour aller enfin aux États-Unis, pas comme en 94 où on avait raté la Coupe du Monde. C'est la dernière fois que les Bleus avaient raté une compétition internationale. Donc il faut du sérieux, la rentrée des classes des Bleus, il faut la réussir, même si effectivement il n'y aura que le premier du groupe qui va directement qualifier à la Coupe du Monde. Eh bien, les Bleus ont un joker, c'est-à-dire qu'ils sont de toute façon, quoi qu'il arrive, barragistes au mois de mars, si d'aventure ils ne se qualifiaient pas directement pour la Coupe du Monde, parce qu'ils ont terminé dans les quatre premiers de la Ligue des Nations. Comme quoi, cette Ligue des Nations, souvent décriée, elle offre un petit avantage psychologique, même si les Bleus veulent clairement remporter tous leurs matchs et se qualifier très vite pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, avec donc Kylian Mbappé, le capitaine titulaire, en pointe aux côtés de Barcola et de Désiré Doué au milieu, pas d'Adrien Rabiot, mais Tchouaméni et Manu Koné qui sont titulaires, donc Dembélé et Rabiot sur le banc côté français. 2 minutes de jeu, 0-0 entre l'Ukraine et la France.
Xavier Monferrand, Nicolas Perronnet au commentaire. Match à suivre sur France Info, la radio, dans les toutes prochaines minutes. Depuis donc la Pologne, en raison de la guerre en Ukraine, où les combats se poursuivent quotidiennement. Qu'en est-il cette fois des avancées diplomatiques? Les alliés de Kiev se sont entendus hier à l'Elysée pour l'envoi de soldats occidentaux, une fois que la paix aura été signée. Réponse aujourd'hui du président russe Vladimir Poutine.
En ce qui concerne d'éventuels contingents militaires en Ukraine, si des troupes y apparaissent, surtout maintenant, pendant les hostilités, nous partons du principe qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire.
Bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir.
Spécialiste des questions géostratégiques et enseignant à Sciences Po, merci d'être avec nous en direct dans Les Informés. Comment est-ce que vous comprenez ces déclarations du président russe ?
Écoutez, ce sont des déclarations habituelles, les menaces classiques. On ne s'attendait pas vraiment à autre chose. C'est vrai qu'on aurait dû lui dire, en fait, dès 2014, et en tout cas dès le 24 février 2022, s'il y a des troupes russes en Ukraine, eh bien nous les considérons comme ennemis. Je pense qu'on pourrait lui rétorquer cela. Ces menaces, elles visent toujours à nous intimider, mais je pense qu'aujourd'hui, les alliés le sont heureusement beaucoup moins qu'avant.
À quoi est-ce qu'il joue exactement, Vladimir Poutine ?
Écoutez, il vise tout simplement à poursuivre sa guerre contre l'Ukraine jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où il l'aura complètement soumise ou détruite, jusqu'au moment où il aura mis à la place du président Zelensky une sorte de président fantoche, comme l'était Yanukovych avant Maïdan, hein, avant 2014. De toute manière, il l'a dit d'ailleurs, il faut d'une certaine manière l'écouter et en même temps ne pas trop faire attention toujours à ce qu'il dit, mais il a dit clairement, de toute manière, l'Ukraine n'a aucun droit à l'existence, l'Ukraine c'est la Russie. Donc, de toute manière, pour lui, l'Ukraine, mais on pourrait dire aussi la Géorgie et d'une certaine manière également les Pays-Baltes ou d'autres États anciennement soviétiques, pour lui, n'existent pas et il vise effectivement à les reconquérir ou à les soumettre.
Il y a une part de provocation de la part du président russe quand il dit justement que les soldats occidentaux seraient des cibles en cas d'intervention en Ukraine pendant le conflit, alors qu'hier, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et les alliés ont bien précisé que ces force interviendrait une fois la paix trouvée.
Oui, évidemment, c'est une sorte de provocation, une énième provocation. Enfin, j'allais dire que la véritable provocation, ce sont les centaines de milliers de victimes civiles que Poutine a faites en Ukraine et avant en Tchétchénie, en Syrie, toujours dans un certain nombre de pays africains, etc. Donc c'est ça, la véritable provocation. Mais d'une certaine manière, ça montre aussi les limites, hein, même s'il faut saluer des avancées sur le plan technique, notamment entre les discussions des plans militaires, entre les états-majors, on a plus quand même de pays susceptibles de participer à quelque chose, mais c'est la limite de ce qui a été discuté hier. Je veux dire, pourquoi parler d'une coalition des volontaires lorsqu'il y aura une paix signée ou un cessez-le-feu, alors même que ça n'interviendra jamais tant que Poutine ne sera pas complètement défait?
C'est ce que j'allais vous demander, Nicolas Tenzer. Il y a une mesure, il y a quelque chose qu'il pourrait accepter, Vladimir Poutine, vers ce chemin vers la paix,
dans
ce
chemin vers la paix? Non, je pense que c'est quelque chose que nous sommes quelques-uns à répéter depuis longtemps, en tout cas depuis 2014, sinon depuis 2008, hein, l'invasion de la Géorgie. L'idée même de négociation avec Poutine, c'est quelque chose qui n'a strictement pas de sens et qui nous affaiblit. C'est vrai que si nous avions, enfin nous alliés, réagi plus tôt, nous n'en serions pas là aujourd'hui et on aurait quand même économisé des centaines de milliers de vies. Et en plus, nous aurions renforcé notre crédibilité en matière de dissuasion conventionnelle et notre sécurité tout court. Donc, je pense que c'est vraiment
Vladimir Poutine,
le problème.
Nicolas Tenzer, n'a jamais dévié de ligne depuis justement 2014 et l'annexion de la Crimée.
Voilà, exactement. Il a toujours été sur cette ligne-là, et même on pourrait remonter à son fameux discours de 2007 à la conférence de Munich, où il a clairement dit, là aussi, qu'il voulait établir une sorte de nouvel ordre international. Et on sait que l'ordre international de Poutine, ce n'est pas véritablement l'ordre d'après les Nations Unies, ce n'est pas l'ordre de la Charte de Paris de 90, ce n'est pas l'ordre du droit international, mais un ordre où les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, ou le crime d'agression, tout crime qu'il a commis, doivent rester impunis, dans lesquels effectivement il y a un retour des zones d'influence qui a été pourtant prohibé par la Charte des Nations Unies. C'est un monde où le droit n'existe plus, où l'agression paye et est finalement récompensée. Et ça, je veux dire, on le sait depuis longtemps. Je pense que quand même Emmanuel Macron aujourd'hui l'a quand même assez bien compris, il l'a dit, Friedrich Merz et les autres dirigeants européens aussi, mais je pense qu'on n'est pas encore, je dirais, à un état où on comprend exactement tout ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter d'espérer qu'il pourra y un jour avoir une voie vers la paix tant qu'il n'y aura pas une forme d'effondrement militaire de la Russie. Alors, en même temps, on peut dire que quand même la Russie ne progresse pas beaucoup. Elle progresse un peu, elle ne progresse pas beaucoup. Elle n'a quand même pas non plus aujourd'hui des moyens, je dirais, considérables. En revanche, comme l'avait souligné le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées qui vient de partir, comme l'a dit d'une autre manière le général Fabien Mandon qui vient d'arriver comme nouveau chef d'état-major, et d'ailleurs leurs homologues, aussi d'autres pays européens, Poutine vise à se renforcer pour peut-être en 2030 être capable là de porter des coups beaucoup plus sévères à l'Europe.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer pour votre analyse en direct dans Les Informés, spécialistes des questions géostratégiques, à lire aux éditions de l'Observatoire votre livre Fin de la politique des grandes puissances. Franck de Dieu, Véronique Reissoulté et Quentin Calmet, on va revenir un peu sur ces derniers développements. Vous avez suivi forcément, Quentin Calmet, ce qu'a dit Emmanuel Macron, oui, ses alliés hier à l'Élysée. Votre regard justement sur cette évolution et sur l'aide que pourront apporter les Européens.
On a écouté la réponse de Vladimir Poutine. Je suis pas sûr que le sommet d'hier à l'Élysée, qui était coprésidé avec les Britanniques par la France, était vraiment destiné à Vladimir Poutine, mais davantage à Donald Trump. On sait que depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, il demande aux Européens de reprendre...
Avec un long entretien d'ailleurs au téléphone avec le président américain.
Même si d'ailleurs on n'a pas la réponse pour l'heure de ce que Donald Trump veut faire avec cette coalition des volontaires. Mais en tout cas, hier à Paris, les 26 pays qui se sont engagés à défendre l'Ukraine en cas de cessez-le-feu l'ont fait aussi pour adresser un message à la Maison-Blanche qui veut que les Européens reprennent à leur charge la défense de l'Europe en disant « Ok, nous on est en train de s'organiser entre nous », sachant très bien que c'est pas les Européens qui vont faire reculer Vladimir Poutine. On peut le regretter, je suis sûr que Nicolas Tenzer le regrette, mais les Européens sont encore faibles face à la Russie. En revanche, Donald Trump, à force de s'énerver, de voir que ça n'avance pas, qu'il reçoit en Alaska au milieu du mois d'août Vladimir Poutine pour ensuite voir que le président russe fait l'inverse de ce qu'il a promis, ça peut faire réagir Vladimir Poutine qui lui, ça peut faire réagir Donald Trump qui lui peut ensuite provoquer l'effondrement militaire comme disait Nicolas Tenzer à l'instant, c'est-à-dire davantage d'armes aux Ukrainiens et un investissement plus grand des Américains sur le sol ukrainien.
Franck de Dieu.
Ce qui s'est passé hier, c'est, ça s'inscrit dans l'après-conflit. Donc, soit cessez-le-feu, soit accord de paix, pour garantir la sécurité du pays et plus largement même de l'Europe. Ces garanties de sécurité, elles s'appuient forcément. Nous, à Marianne, on a fait le tour un peu des diplomates, des militaires. Tous sont d'accord pour dire que ça ne vaut que s'il y a une crédibilité, s'il y a une forme de dissuasion. Et là, effectivement, on peut se poser des questions.
Dissuasion de la part des Européens.
Bien sûr. Alors, on peut se poser des questions. Là, historiquement, vous voyez, par exemple, le long du rideau de fer, lors du pacte de Varsovie, il y avait 400 000 soldats américains. 400 000 soldats américains. Aujourd'hui, les Européens ne sont absolument pas en mesure de le faire. Les Européens se sont engagés, alors là, ça c'est sur le plan humain, mais sur le plan budgétaire, c'est pire encore, je dirais. Ils se sont engagés, les Européens, à, vous vous rappelez, lors de l'OTAN, à consacrer 3,5% de leur PIB aux dépenses militaires d'ici 10 ans. Ça veut dire quoi ? J'ai fait un petit calcul. Ça veut dire qu'il faudra mettre 40 milliards de plus sur le budget de la défense, pas pour faire la guerre, pour garantir la sécurité. 40 milliards, pour vous donner une idée, Victor, c'est 8 millions de l'impôt sur le revenu. C'est 8 millions de ménages qui paient l'impôt sur le revenu. C'est 60% de notre budget d'éducation nationale. C'est-à-dire que, pour donner une idée aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est absolument colossal. Donc, est-ce que, pour assurer la crédibilité et pour assurer une forme de dissuasion, nous aurons les Européens, les moyens économiques et humains pour être à la hauteur de cet enjeu.
Un mot pour terminer, Véronique Reissoul, sur le regard que portent aujourd'hui les Français sur ce conflit en Ukraine, 3 ans et demi après le début.
Pour les Français, d'abord, il y a une forme d'habitude, je dirais pas de lassitude, mais on en parle toujours autant, mais moins. C'est quelque chose qui fait presque partie du quotidien. Évidemment, les Français, en grande majorité, soutiennent les Ukrainiens, mais ce qu'expliquait Franck de Dieu se ressent dans tous les messages, en disant, mais en fait, on ne peut rien faire. Le sentiment que les Européens sont faibles, que les Français sont faibles, la réalité d'un déficit dont on a parlé tout à l'heure, qui fait qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut aider ? Et donc, le sentiment qu'en réalité, réalité, c'est M. Trump qui décide. Et d'ailleurs, quand je regarde le nombre de messages qui sont associés à l'Ukraine, à l'Europe et à Trump, et ben c'est évidemment loin devant Trump qui est associé, qui est débattu. C'est vrai en France, c'est vrai dans le monde entier. Et globalement, même quand je regarde sur les autres pays européens, c'est une situation qui est... pour l'opinion publique, on subit et on suit la réalité de ce que décident les Américains.
La une de Marianne cette semaine, Franck de Dieu.
Vers la crise de régime, on a passé au peigne fin les différentes solutions. Un Premier ministre qui soit durable, une dissolution, une démission, un changement de république. Tout ça, c'est-à-dire dans Marianne, avec des probabilités selon l'événement politique.
Quentin Calmet.
Et lundi, l'actualité est à suivre sur les chaînes parlementaires. Midi et demi, édition spéciale publique Sénat, 14h sur LCP.
Voilà, le message est passé. Et ce sera sur France Info, bien évidemment, édition spéciale, à partir de 15h. Merci à tous les trois, merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. Je vous retrouve lundi. Très bonne soirée.